33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et on va parler football, évidemment, puisqu'on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dimanche. Et on va évidemment revenir sur cette très belle victoire hier de la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont éliminé les Fennecs tenants du titre. Lassiné, bonjour.
Et bonjour, monsieur.
À Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et visiblement, si j'en crois ma petite fiche, et c'est en tout cas ce que vous avez dit au Standard, vous avez fait la fête hier jusqu'à tard dans la nuit.
Oui, hier jusqu'à tard dans la nuit, à l'instar de toutes les villes de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro n'est pas resté en reste. Nous avons fêté cette très très belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire.
Victoire fantastique, disait au micro de RFI Max Alain Gradel. J'écoutais le journal de Xavier Besson à l'instant, on a entendu une supportrice dire « Les éléphants étaient au taquet hier ».
Oui, ils étaient au taquet, ils étaient très 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 fantastiques. Nous avons vu une équipe de Côte d'Ivoire qui nous a fait plaisir, une équipe de Côte d'Ivoire qui retrouve son jeu, qui monte en puissance et qui nous fait croire déjà que nous sommes déjà à la finale et que cette coupe reviendra en Côte d'Ivoire.
Ne vous emballez pas, Lassiné. Vous n'êtes pas encore en finale. Vous êtes déjà en huitième de finale, ce qui est bien. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que les éléphants montent en puissance. Hein. Premier match, certes une victoire, mais c'était une victoire compliquée. 1-0 face à la Guinée équatoriale. Ensuite, il y a eu match nul de partout face à la Sierra Leone. Et puis le 3-1 d'hier face au tenant du titre.
Oui,
on s'attendait quand même à mieux de la part des Algériens.
Oui, bon, les Algériens étaient une équipe un peu timorée parce que vous avez vu une Côte d'Ivoire très regroupée, très structurée, qui nous a montré un jeu collectif hors du commun. Nous avions tous nos joueurs qui étaient très concentrés et qui, pour eux, devraient tout faire pour faire amener cette victoire pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui mérite cette victoire, qui les autres canaux vraiment sont passés un peu à côté.
Oui, effectivement.
Donc, nous avons une jeune équipe qui est en train de revenir et qui va monter très, très, très en puissance.
Bon,
cette année, nous allons être 3 étoiles.
Trois étoiles, bah on l'espère en tout cas pour nos amis ivoiriens. Lassiné, vous ne raccrochez pas, je vous retrouve dans un instant pour un pronostic Côte d'Ivoire-Égypte, match prévu mercredi. Bonjour Salomon.
Bonjour Johan.
À Yaoundé, et comme beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs, vous avez regardé hier ce match formidable entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie.
Tout à fait, tout à fait. Nous étions postés devant nos écrans de télévision.
Et alors, vous partagez l'engouement de Lassiné, effectivement, 3 étoiles pour la Côte d'Ivoire ?
Peut-être pas 3 étoiles. Par rapport à hier, oui, mais pour la suite de la compétition, peut-être pas. Tout ce qu'il faut dire, c'est que déjà, la Côte d'Ivoire, hier, n'avait rien à perdre. Et une équipe qui joue sans pression, se lâche. Elle observe son adversaire, elle étudie les tactiques et joue sur les faiblesses de l'adversaire. Parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, en venant jouer hier, était d'office qualifiée à l'issue de la 3e journée du groupe D.
Alors ça, c'est sûr. Elle était assurée de passer au 8e de finale. Il fallait, quand vous dites qu'elle n'avait rien à perdre, il fallait quand même maintenir la première place du groupe. Ça, c'est important.
C'est important.
Ça, c'est important.
Il fallait tout à fait. Il fallait également laver l'affront, si on peut le dire ainsi, du nul. Face à la Guinée équatoriale lors de la 2e journée.
Sierra Leone, c'était Sierra Leone.
Il fallait donner une autre image de la Côte d'Ivoire.
Évidemment.
Je pense qu'elle a su très bien le faire hier.
Hier.
La Côte d'Ivoire était très organisée et très tactique hier face à la Guinée.
Salomon, j'imagine qu'étant Camerounais, vous êtes supporter des Lions Indomptables.
À
100%. Comment voyez-vous ces huitièmes de finale pour le Cameroun qui rencontreront les Comores lundi?
Bon, déjà, je félicite les Comores hein, pour une première participation, atteindre les huitièmes de finale, c'est très rare en Afrique. Mais c'est le pays organisateur. L'Algérie étant éliminée, celle qui était pressentie, remporter la CAN. Je pense que le Cameroun doit remporter sa CAN. Malheureusement pour le Comore, nous pensons que d'ici lundi, ce sera la fin de la fête au Cameroun. La fête va se poursuivre parce que nous sommes accueillants et en joie tout le temps. Mais côté football, je crois qu'un minimum de 2-0 lundi pour le Cameroun, ça c'est une certitude.
2-0 pour les éléphants, pardon, pour les lions indomptables face aux Comores. Il va falloir d'ici là, en tout cas, si je peux me permettre, Salomon, régler quelques petits soucis de défense. Hein. Il y a des problèmes de défense dans cette équipe camerounaise. Restez avec nous, Salomon. Moïse, allez, je prends un dernier auditeur hein, sur la Coupe d'Afrique des Nations et on aura l'occasion la semaine prochaine, évidemment, de commenter les huitièmes de finale. Moïse, bonjour.
Oui, bonjour.
À Bamako, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui.
Vous disiez au Standard, c'est vraiment une canne, la canne des surprises.
Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très grandes surprises. D'ailleurs, pour ceux qui donnent d'office les équipes à grands favoris, ceux qui aiment beaucoup, beaucoup cette appellation des grands favoris sur papier, c'est eux qui seront encore de plus beaucoup, beaucoup surpris. Mm-hmm. Parce que je pense que cette canne est vraiment une canne exceptionnel par le niveau de jeu des différentes équipes qui se rapprochent véritablement.
Et quand vous parlez de ces équipes formidables, j'imagine que vous pensez à la vôtre, aux Aigles du Mali.
Oui, oui, oui. Non seulement je pense à la nôtre, il faut être objectif. Hein. Je suis un supporter naturel des Aigles quand même, mais je pense aussi à toutes les équipes telles que les équipes qui sont à leur toute première ou deuxième participation, voire troisième, telles que l'équipe du Comore qui réussit à se qualifier pour les huitièmes. Donc je pense que par le niveau de jeu, toutes les équipes sont vraiment très très bien. Elles sont en train de nous montrer de très belles choses et puis franchement, le niveau de jeu est assez élevé.
Bon, en tout cas, le Mali est en huitième de finale, c'est une bonne nouvelle. Ils ont terminé premier de leur groupe. Mali, Guinée équatoriale, mercredi soir, match à suivre évidemment en direct sur RFI. Un pronostic, Moïse?
Oui, je donne le Mali vainqueur. Donne forcément le Mali vainqueur.
À combien?
Je pense.
À combien?
Ah, mais il faut revoir le même score que la Mauritanie à 2-0. Hein.
2-0. 2-0 comme hier soir face à la Mauritanie. Donc 2-0 pour vous. J'ai plus le prénom du précédent auditeur. Salomon, vous êtes toujours 2-0 pour Cameroun-Comore?
Tout à fait, 2-0. Les points de défense seront réglés, ça c'est une certitude.
Ah, c'est une certitude, tant mieux. La ciné pour les éléphants, Côte d'Ivoire, Égypte, mercredi, quel est votre pronostic?
Oui, Côte d'Ivoire, Égypte, sans trop réfléchir, 1-0 pour la Côte d'Ivoire qui va mettre un seul but. Et là, je pense que ça fait beaucoup plus mal.
Eh bien, on se donne rendez-vous le lendemain, jeudi matin. Je vous promets une émission spéciale consacrée au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci infiniment, messieurs Lassiné, Salomon, Moïse, d'avoir été avec nous. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. On va parler de cette crise que traverse en ce moment le parti présidentiel en République démocratique du Congo. Vous avez certainement suivi sur notre antenne, il y a une semaine, jour pour jour, son président par intérim, Jean-Marc Kabound, annonçait sur Twitter qu'il démissionnait de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Démission qu'il n'a pas encore officiellement confirmée puisqu'il ne l'a toujours pas déposée hein, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan.
Cette crise ne vous laisse pas indifférent?
Absolument pas. Je suis un observateur de ce parti depuis environ 30 ans. Et je crois que Kabound, s'il avait annoncé sa démission, peut-être pour se faire supplier, je crois qu'il s'est complètement trompé, puisque c'est l'effet contraire auquel on assiste, puisque les groupes parlementaires de l'Union sacrée, les différentes fédérations de l'UDPS demandent vraiment qu'il formalise sa démission.
Oui. Donc pour vous, c'est une erreur de stratégie. Vous disiez, il démissionne sur Twitter pour que le reste du parti lui dise « Non, reste, continue avec nous, ok, il y a eu des couacs, etc. etc. » Mais reste, mais finalement, on s'aperçoit effectivement que les députés de l'UDPS, par exemple, appellent clairement à tourner la page Kabound. Donc il y a eu une erreur de stratégique de sa part.
Absolument, puisque je me souviens que pour s'imposer dans ce parti, il a marché quand même sur pas mal de monde. Il s'est imposé avec le duo Kabuya, qui est le secrétaire AI. Ils se sont fait beaucoup d'ennemis, on sait, du parti, puisqu'ils ne sont pas du tout rassembleurs. Il y a une grande fracture. Oui. Évidemment, ça a donné l'occasion à tous les détracteurs de ces... faufilé dans la brèche et lui demander de partir.
Mais en même temps, vous savez bien qu'il est quand même à l'origine, dit-on, l'un des architectes de l'Union sacrée. Donc le président Tshisekedi, il lui est redevable.
Bon, c'est ce qu'on dit, hein, mais ça m'étonne quand même que les 14 groupes parlementaires lui demandent de formaliser sa démission. S'il était l'artisan, comment ça se fait qu'il lui tourne le dos aussi facilement? Je sais qu'il n'est pas très modeste. Il a toujours clamé à qui veut l'attendre, que c'est lui. Il s'appelle même héros. Il s'appelle héros national.
Ah, héros national. D'accord, héros. Voilà, j'avais compris, il s'appelait Euro comme Europe, c'est pour ça que j'ai pas fait. L'héros. Oui, bah, on lui reproche, ses détracteurs, lui reproche de se comporter finalement comme un vice-président de la République.
Absolument, ouais, absolument. Donc, il n'est pas très modeste. Il se considère même comme les 14e parlementaires. Vous savez, l'UDP a été créé par 13 parlementaires. Et lui, il suppose qu'il est le 14e parlementaire. Il n'est pas très modeste. Et donc, il a beaucoup d'ennemis quand même, il faut reconnaître.
Bon, bah écoutez, merci de votre analyse, Antoine. Bonne journée à Kinshasa. On suivra évidemment de près l'actualité au sein du parti présidentiel, l'UDPS. Il est 9h51 à Paris. C'est la Libre Antenne, 33 9 693 693 70. Cette semaine, en Guinée, l'actualité a surtout été marquée par le départ d'Alpha Condé aux Émirats Arabes Unis. Il s'est rendu sur place pour des soins médicaux. Alpha Condé, l'ancien président, hein, renversé il y a maintenant 4 mois. Il a été autorisé à quitter le pays par la junte à condition qu'il revienne dans un mois. On a eu l'occasion d'en parler cette semaine et c'est vrai que plusieurs d'entre vous se posent des questions. C'est le cas de Souleymane. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous vos auditeurs.
Souleymane, vous êtes à Conakry dans la capitale, et comme une partie de la classe politique, une partie de la société civile, vous êtes dubitatif, vous vous posez des questions, vous vous demandez si Alpha Condé reviendra vraiment un jour en Guinée.
Oui, en début de semaine, nous avons tous suivi le film de la sortie de l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, pour des raisons médicales, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est d'ailleurs salué par une grande partie de la population guinéenne. Mais Juan, de l'autre côté, il y a des questions qu'il faille se poser, notamment quant à son retour. Est-ce que les garanties, il y a des garanties par rapport à cette sortie? Puisqu'on se rappelle, en 2009, quand le capitaine Dadi s'est fait tirer, il a été évacué d'urgence au Maroc. Donc après ces soins, on l'a envoyé au Burkina Faso. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ces scénarios?
Oui, et le capitaine Dadis a pu rentrer en Guinée il y a quelques semaines, mais après 10 ans d'exil. Donc vous craignez que ce déplacement sanitaire ne se transforme finalement en exil?
Voilà, c'est cette crainte que j'ai parce que
en quoi est-ce un problème?
Voilà, il y a des choses qui méritent d'être clarifiées dans sa gestion, surtout la gestion des manifestations, la gestion économique et tout ça. Donc, si la condition de son retour est subordonnée à l'avis de son médecin, je me dis que est-ce que c'est pas un ticket que les nouvelles autorités lui ont offert pour qu'il s'en aille.
Bon, ça c'est ce que pensent et ce que craignent certains, mais rappelez-vous ce que disait le colonel Doumbouya, je cite sa formule qui a fait le tour en Guinée, la justice sera la boussole des citoyens pendant la transition, c'est ce qu'il a dit, Souleymane.
Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que nous souhaitons tous, mais en tout cas,
la CEDEAO s'est portée garante, théoriquement Alpha Condé sera de retour dans un mois, si sa santé le lui permet. Il y a aussi évidemment cet aspect-là qui est important et qu'il faut prendre en compte. Merci à vous Souleymane, bonne journée. Après la Guinée, on va parler de la Côte d'Ivoire, où le dialogue politique a repris hier entre les principales formations du pays. Bonjour Yacouba.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et vous nous interpellez, vous, sur l'appel de l'ex-première dame Simone Gbagbo, qui demande que toutes les forces vives de la nation soient associées au dialogue. Disons-le tout de suite, Madame Gbagbo, avec son mouvement, n'est pas du tout conviée au dialogue. Elle dit ne pas comprendre pourquoi elle, comme d'autres associations et d'autres partis, sont exclus du dialogue. Elle n'est pas donc invitée. Elle a donc décidé de créer une plateforme regroupant tous ceux qui ne sont pas invités. Et vous, vous dites, Yacouba, c'est une bonne initiative que celle prise par Mme Gbagbo.
Oui, effectivement. Je pense que la création de cette plateforme-là des partis politiques non invités au dialogue politique est une bonne initiative. À mon sens, elle vise à donner un peu de la voix en participant, soit activement, ou en se plaçant comme arbitre, quoi, en fait, pour évaluer le déroulement. Et je pense que dans le contexte de besoin de réconciliation dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui, cela ajoute à la qualité du processus.
Oui, mais elle apporterait quoi de plus, Mme Gbagbo, en participant à ce dialogue?
Ben, je viens de dire tantôt que... elle pourrait jouer le rôle d'arbitre.
Au nom de quoi? Arbitre au nom de quoi?
Au nom d'une plateforme de regroupement de partis politiques qui n'a pas été conviée.
Oui.
Et je pense aussi que l'objectif immédiat...
Je me permettais de vous demander qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus au dialogue. Elle a organisé une conférence de presse, Mme Gbagbo, cette semaine, et elle a posé sur la table des propositions. Elle dit qu'il faut une nouvelle constitution. Bon, ça c'est prévu, c'est au menu des discussions. Elle dit qu'il faut une nouvelle loi électorale, c'est également prévu. Elle demande, j'ai vu, la mise en place d'une nouvelle commission électorale. C'est également à l'ordre du jour. Donc vous voyez, ces propositions, elles ne sont pas si originales que cela.
Oui, tout à fait. Mais je pense que le principe même du dialogue politique, c'est un peu de montrer un peu à la communauté nationale que les acteurs politiques échangent entre eux. Mmh. Et donc, dans cette dynamique-là, les propositions sont dans le fond, mais dans la forme. Quand les Ivoiriens voient que leurs leaders n'ont pas de langue de bois entre eux, qu'ils sont vraiment conviviales dans les échanges, je pense que ça participe en interne au processus de réconciliation.
Bon, écoutez, on va suivre ce nouveau round de discussion qui est prévu pour durer 3 semaines. Hein. 3 semaines, c'est bien ça, tous les jeudis, rendez-vous pour débattre sur ces différents thèmes. Bonne journée, Yacouba. On va terminer avec vous, Oumar. Bonjour.
Bonjour, Juan.
À Bamako et comme de nombreux Maliens, mais vous serez le seul ce matin, malheureusement, on est pris par le temps, à réagir aux sanctions de la CEDEAO. Vous me direz qu'on en a beaucoup parlé déjà dans cette émission, mais 10 jours plus tard, 2 semaines plus tard, vous êtes toujours en colère, vous. Colère contre l'organisation ouest-africaine.
Effectivement, Juan. Je suis en colère contre la CEDEAO parce que Je comprends pas pourquoi ils ne respectent pas le choix du peuple malien. Parce que le dimanche passé, le peuple malien a montré qu'ils soutiennent vraiment la transition.
Alors c'était pas... J'imagine que vous faites référence à la manifestation. Aux manifestations. Oui, enfin c'était pas dimanche, c'était vendredi, mais effectivement il y a eu des dizaines de milliers de personnes manifestant notamment à Bamako pour dénoncer ces sanctions. Vous étiez dans la rue vous-même, Oumar ?
Oui, j'étais au boulevard de l'Indépendance. Mmh. Et j'ai vu comment les gens se sont manifestés pour vraiment soutenir cette transition-là.
Mmh.
Et je pense que la CEDEAO doit respecter ce choix du peuple malien. C'est ça même la définition de la démocratie.
Oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, les autorités de la transition ne doivent pas proposer un autre calendrier de la transition, puisque là, elles réclamaient dans un premier temps 5 ans, puis ensuite 4 ans supplémentaires de transition. Est-ce que, honnêtement, ce n'est pas trop?
Oui, c'est trop, mais la négociation aussi, la CEDEAO aussi est trop sévère par rapport à la négociation. La CEDEAO dit un an au plus tard, 18 mois. Ça aussi, ce serait une transition bâclée. On va revenir toujours à la case départ.
Bah 18 mois, c'était organiser des élections le mois prochain. Le 27 février, c'était la date initialement annoncée par la junte. Merci Oumar et désolé pour tous les Maliens qui souhaitaient prendre la parole, mais on aura l'occasion, c'est promis, de reparler de votre pays dans les prochains jours. Lundi, c'est Chantal Leroux qui sera à ce micro. Vous lancerez le débat avec Chantal sur cette décision du président béninois Patrice Talon de créer un guichet pour que les citoyens puissent dénoncer les faits de corruption. Ce sera l'occasion de nous dire ce qui est fait dans votre pays justement pour lutter contre ce fléau.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.